Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 1er février 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. L'opposant ougandais Bobi Wine conteste les résultats de la présidentielle à la Cour suprême. Les participants au dialogue interlibyen sont en Suisse pour choisir un Premier ministre et un conseil présidentiel. En Birmanie, l'armée a proclamé un an d'état d'urgence après avoir perpétré un coup d'état. Une puissante tempête de neige a enseveli plusieurs villes de la côte est des États-Unis. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. La Cour constitutionnelle en Centrafrique a annulé pour irrégularité les résultats du premier tour des législatives dans 13 circonscriptions sur 140 et l'incertitude demeure pour 58 autres où le scrutin n'a pu avoir lieu en raison de l'insécurité. Lors des élections le 27 décembre, 2 électeurs inscrits sur 3 n'avaient pas pu voter à cause de cette insécurité. La Cour constitutionnelle a par ailleurs validé l'élection de 22 députés sur 140, dont 5 du parti du président Touadéra. L'opposant ougandais Bobi Wine a saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats de l'élection présidentielle qu'il estime entachée par des fraudes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un des avocats de l'opposant a indiqué en déposant son recours à la Cour suprême qu'il cherchait l'annulation de l'élection de Yoweri Museveni. L'ancien guerriero de 76 ans au pouvoir depuis 1986 a remporté le scrutin présidentiel du 14 janvier avec 58,6% des voix. Bobi Wine a immédiatement dénoncé l'élection comme une mascarade, les résultats officiels lui attribuant 34,8% des suffrages. De son côté, M. Museveni affirme que cette élection a été la plus transparente que le pays ait jamais connue depuis son indépendance en 1962. Le jeune député de 38 ans et ancien chanteur de raga disposait de 15 jours après la déclaration des résultats par la commission électorale pour les contester devant la justice. La Cour suprême a maintenant 45 jours pour statuer sur son recours. La campagne électorale a été marquée par des violences qui ont fait des dizaines de morts et par la répression contre les candidats de l'opposition, empêchés d'organiser des rassemblements au nom de la lutte contre l'épidémie de COVID-19.
En Somalie, au moins 5 civils sont morts et 10 ont été blessés dans une attaque menée dimanche à Mogadiscio par les Chebabs qui ont divisé un ancien général. Une voiture piégée a explosé devant l'hôtel Afrique près de l'aéroport et des hommes armés ont investi le bâtiment et échangé des coups de feu avec le personnel de sécurité. Les forces armées sont intervenues contre les 4 assaillants. Le siège de l'hôtel s'est poursuivi jusqu'aux alentours de minuit. Les participants au dialogue interlibyen qui sont en Suisse pour choisir un nouveau Premier ministre et un conseil présidentiel doivent honorer à tout prix leur promesse de tenir des élections à la fin de l'année, a exhorté l'ONU. Le point avec Nani Talani.
Les 75 délégués libyens ont jusqu'à vendredi pour voter et choisir le conseil présidentiel qui sera composé de 3 membres et un premier ministre assisté de 2 adjoints. Ils désigneront ces personnalités parmi une liste de 45 candidats dévoilée samedi par l'ONU. Ce conseil transitoire aura pour mission de réunifier les institutions de l'État et assurer la sécurité jusqu'aux élections. La représentante de l'ONU, Stephanie Williams, a déclaré aux délégués « Vous avez apposé une marque indélébile sur le calendrier pour la tenue d'élections nationales le 24 décembre de cette année. Cette décision a été approuvée à une très large majorité par vos compatriotes et c'est un engagement qui doit être tenu à tout prix. » Madame Williams les a encouragés à ne pas décevoir le peuple libyen qui compte sur ses pourparlers pour enfin aspirer à la paix. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, deux autorités se disputent le pouvoir en Libye. Plusieurs pourparlers ont été initiés sans parvenir à sortir le pays de la crise. Le 13 novembre 2020 à Tunis, des discussions ont abouti à un accord pour une présidentielle le 24 décembre 2021, mais pas sur le mécanisme de désignation d'un exécutif unifié pour assurer la transition jusqu'au scrutin. Le 19 janvier, un mécanisme de sélection a été approuvé.
Al-Qaïda au Sahel développe un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin, a indiqué le chef du renseignement extérieur français Bernard Émier. Lors d'une intervention publique aux côtés de la ministre des Armées Florence Parly, le patron de la DGSE a montré les images d'une réunion tenue en février 2020 dans le centre du Mali par les hauts responsables locaux du groupe djihadiste. Selon lui, les terroristes financent des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire et au Bénin. En Angola, les forces de sécurité ont tué plusieurs militants dans la province de Lunda Norte. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans la dispersion, a indiqué la police ce lundi. Le rassemblement non autorisé du mouvement séparatiste Lunda Tshokwe s'est déroulé samedi à Kafumfo. La police dit avoir agi en état de légitime défense lorsque quelques 300 manifestants armés ont tenté de prendre d'assaut le commissariat, blessant 2 policiers. Le ministère des Affaires étrangères britannique a annoncé des sanctions contre 4 responsables de la sécurité du Zimbabwe pour violation des droits humains. Le ministre de la Sécurité, Owen Kube, le commissaire général de la police, Gowin Matanga, l'ancien commandant de la garde présidentielle, Anselem Saniatwe, et le directeur des renseignements, Isaac Moyo, ont leurs avoirs gelés au Royaume-Uni et ne peuvent plus y voyager, indiqué le ministère.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Birmanie, l'armée a proclamé l'état d'urgence pour 1 an après avoir perpétré un coup d'État et arrêté la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ce putsch est nécessaire pour préserver la stabilité du pays, ont fait savoir les militaires qui ont promis l'organisation de nouvelles élections libres et équitables une fois que l'état d'urgence d'un an sera levé. Ils accusent la commission électorale de ne pas avoir remédié aux irrégularités qui ont eu lieu, selon eux, lors des législatives de novembre remportées par la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Madame Suu Kyi, chef du gouvernement, le président de la République, Win Myint, et d'autres responsables du parti ont été arrêtés, selon Myo Nyunt, porte-parole de cette formation. Aung San Suu Kyi a exhorté les Birmans à ne pas accepter ce putsch. La Chine a appelé au respect de la Constitution. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Union européenne et les États-Unis ont dénoncé le coup d'État et exhorté la libération des personnes arrêtées. Washington a averti de mesures contre les responsables. La Birmanie est sortie il y a 10 ans d'un régime militaire au pouvoir pendant presque un demi-siècle. Les 2 derniers coups d'État depuis l'indépendance du pays en 1948 remontent à 1962 et 1988.
Une puissante tempête de neige ensevelit plusieurs villes de la côte est des États-Unis, y compris New York et Washington. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Un avis de tempête hivernale a été émis par le Service météorologique national pour le nord-est des États-Unis sur un territoire allant de la Virginie jusqu'au Maine, peuplé de dizaines de millions de personnes. Les New-Yorkais s'attendent à d'importantes chutes de neige ce lundi avec des conditions proches du blizzard près de la côte. Le maire Bill de Blasio a décrété l'état d'urgence local alors que la ville de plus de 8 millions d'habitants se prépare à la tempête, limitant les déplacements non essentiels et gardant les routes dégagées pour les véhicules d'urgence. Cette tempête a fermé les sites de vaccination et d'autres services liés à la pandémie du Covid-19 dans de nombreux États. Lara Pagano, du Service météorologique national, a déclaré que cette tempête apporterait de la neige abondante et des vents forts jusqu'à mardi. Elle avait d'abord touché les parties montagneuses de la Californie avec par endroits des couches de neige d'1,8 mètre de hauteur la semaine dernière avant de se déplacer vers le Midwest, touchant en particulier Chicago.
Une vidéo montrant des policiers américains menottant et usant de gaz au poivre contre une fille de 9 ans à Rochester, dans l'état de New York, a suscité une vague d'indignation. Selon le chef adjoint de la police, la fillette souffrait d'une crise urgente de santé mentale. Des policiers appelés sur les lieux vendredi ont réagi en la menottant avant d'essayer de la forcer à monter dans une voiture, selon une vidéo publiée dimanche par la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En RDC, le projet PADIR a permis aux commerçants de doubler leurs revenus grâce au réaménagement de nombreuses infrastructures, dont 30 marchés ruraux, 15 aires d'abattage, 8 ateliers d'artisans, 1400 km de pistes rurales et une centaine de réseaux d'alimentation en eau potable. Le PADIR a aussi réhabilité 7 bâtiments ministériels, des instituts de formation et des centres d'insertion à Kinshasa, dans le Bas-Congo, le Bandundu, le Kasaï occidental, le Kasaï oriental et le Katanga, grâce à un don de la BAD de 39,4 millions de dollars entre 2012 et 2019. Pour terminer, ici aux États-Unis, 10 sénateurs républicains proposent à Joe Biden un plan d'aide économique d'environ 600 milliards de dollars contre son paquet de mesures de 1 900 milliards de dollars pour sortir le pays du marasme économique provoqué par le COVID-19. Les républicains sont opposés à la proposition de Biden, estimant qu'elle va creuser davantage la dette et le déficit budgétaire des États-Unis.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les affiches des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qui se déroule au Cameroun, sont connues. Le Cameroun, justement, qui a éliminé la République démocratique du Congo en quart de finale 2-1, fera face au Maroc, tenant du titre et qui a sorti la Zambie 3-1. L'autre demi opposera deux équipes d'Afrique de l'Ouest, le Mali et la Guinée. Les Maliens sont venus à bout des Diables Rouges du Congo à l'issue des tirs au but. Après prolongation, Kader Traoré a assisté à la rencontre à Yaoundé.
À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se tenaient au coude à coude, 0-0 partout. Il a fallu recourir aux prolongations, puis à la séance des tirs au but pour que le Mali s'impose par 5 pénalties réussis contre 4. Le sélectionneur malien Nouhoun Diané sait qu'il n'y aura plus de match facile, mais pour lui le plus important, c'était de se qualifier pour les demi-finales.
Pour nous, l'objectif, c'était quand même de tout faire pour passer et on n'est pas revenu à le faire. On savait que ça n'allait pas être facile et le prochain match, ça sera la même. Le plus important aujourd'hui, c'est de permettre aux joueurs de récupérer parce qu'on a senti aujourd'hui un peu de baisse de régime, de fatigue.
Du côté des Diables Rouges, il fallait tout faire pour ne pas arriver à la fin des 120 minutes sans tirer gain du match. Surtout que l'équipe a été beaucoup perturbée par cette histoire de test Covid. Barthélémy Ngatsono, le sélectionneur congolais, nous en dit beaucoup plus.
En arrivant à ce match, nous savions qu'il pouvait se terminer soit par un score nul et on pouvait aller aux prolongations. Nous avons fait des séances de tir de but chaque fin d'entraînement, mais aujourd'hui ça n'a pas marché.
À Douala, au stade de Japoma, le duel de l'Afrique centrale entre la République démocratique du Congo et le Cameroun a tourné à l'avantage des Lions indomptables. Valdo Simo Yamba.
Fin de l'aventure de la RDC, la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, battu 2-1 par les Cameroun en quart de finale, alors que les Léopards étaient les premiers à trouver les chemins défilés. Par Lilepo, 21e minute, un Cameroun moins dangereux, mais renversant, qui a mis à profit deux erreurs du gardien Matampi, explique les sélectionneurs congolais Florent Ibengué.
Il y a deux erreurs de notre gardien qui remettent le Cameroun devant.
Deux erreurs qui ont coûté deux buts, associées à une domination stérile en seconde période. Les Léopards n'ont pas su revenir à la marque, regrette entraîneur congolais.
En seconde mi-temps, on a beaucoup tenté. On a eu une domination un peu stérile et c'est ce qu'on regrette un petit peu.
Au finish, c'est les Cameroun qui l'emportent au terme des matchs bien préparés. À en croire l'entraîneur des Lions, Martin Tungu.
Je pense qu'on s'est préparé pour remporter ce match.
La veille de ces derbys de l'Afrique centrale, il y a eu grogne sur les tests Covid chez les Léopards après que 13 autres joueurs aient été déclarés positifs alors que la contre-expertise imposée par la CAF n'a retenu que deux. Une situation décriée par l'entraîneur Florent Ibengué.
Les gens qui ont fait ça sciemment avec ces tests de Covid bidon. Donc j'espère qu'ils seront largement sanctionnés parce que ça passe au-delà du football.
Les demi-finales se joueront donc mercredi à 16h, temps universel. On aura Mali-Guinée au stade de Japoma à Douala. Puis à 20h, on aura le choc Cameroun-Maroc à Limbé. Ces matchs devront se disputer sous le regard d'Ahmad Ahmad qui a repris les commandes de la CAF après la décision du tribunal arbitral du sport qui a suspendu la sanction prononcée contre lui par la commission d'éthique de la FIFA en novembre dernier.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Togo, la ville touristique d'Anéo, située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Lomé, veut retrouver son charme d'antan. Elle a lancé Anéo Ville Verte, ma commune éco-togolaise, un projet communal visant à valoriser les déchets, notamment par le recyclage, en impliquant les élèves. Notre correspondante Kayle Osson s'est rendue dans cette localité.
Anéo, ma ville lumière sans déchets.
C'est à cet idéal que s'attellent les nouvelles autorités de la ville d'Anéo. Deux fois capitale du Togo, la ville tricentenaire est confrontée à des défis climatiques et environnementaux. Anéo est un territoire qui est situé entre la mer, la lagune et le lac. Pendant que l'érosion la grignote, sa population l'étouffe de sachets plastiques et autres déchets recyclables. Après réflexion, il a été décidé de mettre les élèves à contribution pour faire d'Anéo une ville verte. Alexis Akereboro, maire de la commune Lac 1.
Ce projet est une démarche pédagogique à l'endroit de la population pour leur faire comprendre que la propriété de la ville dépend de chacun d'entre nous. Mais ce message ne peut être mieux porté que si nous le faisons véhiculer à travers les enfants dans le cadre d'un projet éducatif. Et donc c'est pour cela que nous avons fait le choix des écoles primaires. Notre ville n'est pas propre, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et le meilleur moyen de la rendre propre est de demander aux enfants de nous aider à avoir une ville verte.
L'initiative Anéo Ville Verte, ma commune éco-togolais, fait du tri sélectif le soubassement du projet. Les meilleurs élèves, collecteurs de déchets recyclables, seront récompensés avec des kits scolaires et des lampes solaires. Edem Dalmeda, responsable de Africa Global Recycling, partenaire du projet.
En alliant la question du tri sélectif par les élèves, nous récupérons des déchets recyclables qui ont de la valeur et qui vont permettre à fournir davantage de lampes solaires aux élèves.
Des élèves sensibilisés sur la thématique ont écrit des poèmes.
Je m'appelle Atis Odifaoni, j'ai 8 ans, je suis au CE2. Dans mon poème, j'ai dit de refus salir notre ville à Néro, parce qu'une ville propre fait que nous sommes en bonne santé. Si je vois quelqu'un qui jette les déchets dans la rue, je lui dis de reprendre les déchets et de les mettre dans la poubelle.
Rendre à la ville touristique d'Anéo, où l'on peut admirer l'embouchure, sa beauté naturelle, est au prix de ses initiatives écologiques. Kayle Osson, de retour d'Anéo pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, une enquête de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a mis en exergue la faible représentativité des femmes à la tête des entreprises de presse. La HAMA fait ainsi le plaidoyer pour la prise en compte des femmes dans les instances dirigeantes des médias publics et privés. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Sur 56 radios privées, il n'y a que 3 femmes dirigeantes. Sur 29 journaux privés, une seule femme est co-directrice de publication. Au niveau des médias de service public, 2 femmes sont directrices générales. Sur 25 stations provinciales de l'ONAMA créées, une seule femme est chef de station.
Bethel Miarom, chef du département de développement des médias à la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, un organe de régulation des médias au Tchad. Selon Halime Assadia Ali, directrice générale adjointe de l'ONAMA, Office national des médias et de l'audiovisuel, 3 éléments justifient la faible représentativité des femmes dans le secteur des médias au Tchad.
La plupart de nos familles préfèrent investir sur les garçons que sur les filles. Deuxième phénomène, on a souvent du mal à voir les femmes exercer dans les secteurs qui exposent entre griffes. Troisième élément, les premières rares femmes journalistes qui se trouvaient dans les rédactions étaient confinées un peu à des rôles secondaires. Donc ça ne permet pas aux femmes d'avoir une ascension au sein déjà des rédactions et par ricochet attendre le sommet pour gérer une radio, une télévision, une presse écrite.
Cependant, elle loue le mérite de quelques rares femmes qui ont fait leur preuve.
La première radio communautaire a été créée par une femme et elle a fait son chemin. Dans la presse écrite, on a eu la première femme à avoir sa publication, Kumbuki l'a dirigée pendant des années. Je pense qu'on n'a rien à lui reprocher. Et aujourd'hui, quand vous arrivez dans nos rédactions, que ce soit dans le public ou dans le privé, il n'y a pas quelque chose que les hommes font, que les femmes ne font pas. Même si on sait qu'en tant que femme, dans une rédaction, on a un double défi. Le défi d'être femme et le défi d'être professionnelle. Et être professionnelle, ça suppose de faire deux fois le même travail que nos collègues hommes pour qu'on nous reconnaisse ça.
Relever les défis, Mme Seka Isabella Singar, directrice générale de l'agence tchadienne de presse et d'édition, en est consciente.
Pour nous autres, c'est un sacrifice. La mentalité prend les femmes comme des gens qui aiment leur corps, donc elles ne peuvent pas se battre.
Elle invite ses sœurs à plus d'abnégation pour renverser la tendance.
Je peux demander seulement à mes sœurs d'exercer le métier par vocation et dire je veux tirer mon épingle du jeu pour pouvoir émerger. Parce que c'est un métier difficile, très exigeant. Et l'homme, par instinct de domination, ne veut pas traîner la femme. Il y a également ça. Il ne faut pas l'écarter totalement. Nous affrontons des difficultés au quotidien.
Bethel Miarom, chef du département de développement des médias, a déclaré à VOA Afrique, son organe de régulation, la AMA, entend corriger ce déséquilibre pour qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes dans le secteur des médias au Tchad.
Il est de notre devoir d'encourager les filles à aller dans les écoles de journalisme notamment. Nous entendons également encourager toutes les entreprises de presse, qu'elles soient publiques ou privées, à faire confiance aux femmes. Nous pensons qu'il est important que les femmes soient responsabilisées au même titre que les hommes.
La AMA, dont l'une des missions est de donner son avis sur la nomination des responsables des médias publics, s'engage à assurer l'égalité de sexe dans le secteur des médias au Tchad. André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le président congolais Félix Tshisekedi a réussi son pari de se défaire du FCC de Joseph Kabila avec qui il était en coalition. Après la démission du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et disposant d'une forte majorité à l'Assemblée nationale, le chef de l'État a désormais les coudées franches pour dérouler son programme de gouvernance avec l'Union sacrée. Quelles sont les implications de ce nouveau rapport de force dans le champ politique congolais à 2 ans de la présidentielle? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les membres du Congrès américain s'apprêtent à entamer les débats sur les mesures de relance économique en rapport avec la pandémie de COVID-19. Dans le même temps, la vaccination de masse contre le coronavirus se poursuit au plan national, ainsi que l'explique Michel Kine dans son reportage. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en baisse, tout comme celui des admissions dans les hôpitaux américains. Mais janvier aura été le mois le plus meurtrier, avec plus de 90 000 décès liés à la pandémie. Le lancement de la campagne de vaccination a été chaotique, soulevant la question de savoir qui doit être vacciné. Le docteur Richard Besser est un ancien directeur de centre de contrôle et de prévention des maladies.
Pouvons-nous administrer des vaccins aux personnes les plus à risque d'être infectées, d'être hospitalisées et de mourir?
Le Congrès subit d'intenses pressions pour faire parvenir aux États-Unis des fonds pour la vaccination et à l'assistance aux nécessiteux. On s'attend à ce que les législateurs se penchent cette semaine sur le plan de relance du président Joe Biden d'une valeur de 1900 milliards de dollars. Celui-ci inclut des fonds pour une campagne nationale de vaccination, de même qu'une expansion des allocations chômage. Le président Joe Biden.
Je soutiens l'adoption du plan de relance COVID avec le soutien des républicains si possible, mais le plan doit passer. Il n'y a pas de si, ni ou de mais.
De nombreux législateurs républicains sont réticents, demandent si un tel niveau de dépenses est nécessaire. 10 sénateurs républicains, eux, ont écrit à Biden dimanche pour demander un compromis proposant un tiers de ce que demandent les démocrates. Pour le sénateur Bill Cassidy de Louisiane, le président Biden ne cherche pas vraiment l'unité, mais un vernis bipartisan. Pour leur part, les démocrates assurent qu'ils cherchent un moyen d'adopter le plan avec une petite majorité. Le sénateur indépendant Bernie Sanders du Vermont est le président entrant de la commission du budget.
Si les républicains veulent travailler avec nous et qu'ils ont de meilleures idées sur la manière de résoudre ces crises, tant mieux. Mais pour être honnête avec vous, je n'en ai pas encore entendu.
La fenêtre d'opportunité pour agir rapidement sur le plan d'assistance pourrait se refermer temporairement. En effet, le début, le 9 février du procès au Sénat de l'ancien président Donald Trump pourrait ralentir les efforts des législateurs.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Des dizaines de milliers de citoyens russes dans plus de 120 villes et villages de Saint-Pétersbourg et Moscou à l'ouest, à Irkoutsk et Yuzno-Sakhalinsk à l'est, se sont rendus le week-end du 23 janvier à manifester pacifiquement contre l'arrestation du chef de l'opposition Alexei Navalny et exiger sa libération. Navalny, avocat et militant anticorruption, a été arrêté le 17 janvier à l'aéroport Cheremetyevo de Moscou à son retour d'Allemagne où il se remettait d'une tentative d'assassinat par un agent neurotoxique. L'arrestation, qui a été diffusée en direct en Russie par des journalistes indépendants, a donné lieu aux plus grandes manifestations non autorisées sous le règne du président russe Vladimir Poutine. Les États-Unis soutiennent le droit de tous les peuples de manifester pacifiquement la liberté d'expression, a tweeté Rebecca Ross, porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Moscou. Les mesures prises par les autorités russes suppriment ces droits. La réponse de la police a d'abord été relativement discrète, mais alors que la foule de manifestants augmentait et refusait de se disperser, la police anti-émeute lourdement blindée a commencé à tirer au hasard sur la foule, a procédé à de nombreuses arrestations. Dans tout le pays, plus de 3700 personnes ont été incarcérées. Les efforts continuent pour supprimer le droit des Russes à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. L'arrestation de la figure de l'opposition Alexei Navalny et la répression des manifestations qui ont suivi sont des indications troublantes de nouvelles restrictions de la société civile et des libertés fondamentales, a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État américain. Le droit des Russes de se réunir pacifiquement et de participer à des élections libres et équitables est inscrit non seulement dans la constitution du pays, mais aussi dans les engagements de la Russie à l'OSCE, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans ses obligations internationales en vertu du pacte international relatif aux droits civils et droits politiques. Les États-Unis demandent aux autorités russes de libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits universels et la libération immédiate et inconditionnelle d'Alexei Navalny. Nous exhortons la Russie à coopérer pleinement avec l'enquête de la communauté internationale sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny et à expliquer de manière crédible l'utilisation d'une arme chimique sur son sol, a déclaré le porte-parole Price. Les États-Unis se joindront à nos alliés et partenaires pour défendre les droits de l'homme, que ce soit en Russie ou partout où ils seront menacés.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.